Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast qui va parler donc de la question du logement. Alors pour le moment, nous sommes en semaine de sensibilisation pour un chez soi décent, une semaine que nous organisons à Nivelles avec de nombreuses associations locales comme le CIE Brabant Wallon, le CEPAG, la bibliothèque de Nivelles, le Ciné 4 et en collaboration avec la ville et l'AMO Tempo. Donc c'est une semaine pour parler de la solidarité et surtout en fait de tout ce qui concerne le logement. Et aujourd'hui, nous accueillons donc Jean Robart du Relais Social. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ?
Oui, bonjour. Donc moi je travaille pour le Relais Social qui est une ASBL qui travaille dans la grande précarité et dont la mission principale est vraiment la coordination du secteur social et de la grande précarité entre les opérateurs publics et privés. Et moi, plus spécialement, je m'occupe du projet Capteur Logement, donc tout ce qui est en lien avec le logement et de négocier des logements solidaires avec des propriétaires pour permettre un accès plus facile à des locataires vulnérables ou en précarité.
Merci Jean. Nous sommes aussi accompagnés de Jamily Jacob qui elle travaille donc à Infort Jeune Brabant Wallon. Est-ce que tu peux aussi te présenter ?
Oui, donc moi c'est Jamily Sir Jacob. Je travaille à Infort Jeune en tant que chargée de communication et donc Infort Jeune est un centre d'information jeunesse à destination des jeunes de 12 à 26 ans, mais bon, on aime tout le monde. Donc on informe les jeunes sur leurs droits et devoirs, sur toutes les thématiques qui les concernent, donc ça peut partir du job étudiant, l'orientation scolaire, la sexualité, mais ça peut aller aussi passer par le logement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer la parole à Jonas, l'éducateur de l'AMO, qui a donc préparé avec les jeunes la rencontre d'aujourd'hui.
Bien le bonjour à tous. Comme on l'a expliqué dans le cadre de cette semaine de sensibilisation, en fait, en collaboration avec les jeunes et aussi avec les vécus que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mon public, qui est un public de 16-23, on a élaboré en fait énormément de questions. Alors, et aujourd'hui, en fait, ce sera notre amie Yacine qui va en fait poser ses questions à nos partenaires et essayer d'y répondre le plus succinctement possible, je pense que c'est ça qu'on dit. Et voilà, donc Yacine, je te laisse la parole pour la première question.
Je pose juste la question.
Oui, tu peux poser la question.
Ok. Donc quelles sont les principales difficultés que rencontrent les jeunes lorsqu'ils cherchent un logement aujourd'hui ?
Alors, à Infort Jeune, on pense que les principales difficultés, donc, c'est déjà savoir par où commencer, comment est-ce qu'on cherche un logement et où chercher. Il y a aussi comme difficulté le fait de trouver un propriétaire qui les accepte avec leurs difficultés. Et bon, forcément, la question principale, c'est comment financer ce logement.
Oui, je suis assez d'accord. Donc c'est vraiment la difficulté de... Il y a plusieurs étapes, en fait. C'est comment on cherche un logement, donc c'est comment on peut trouver un logement aujourd'hui quand on est jeune ou moins jeune, et à comment accéder à ce logement et comment avoir les revenus nécessaires pour ce logement. Donc effectivement, c'est une thématique qui touche particulièrement les jeunes et d'autres catégories de la population, mais effectivement, il y a pas mal de difficultés, pas mal de barrières à l'accès au logement.
Question suivante ?
Oui, tu peux passer à la question suivante, Yacine.
Ok. Donc, en quoi la précarité financière, donc les revenus faibles, les jobs instables et les études, compliquent-elles l'accès au logement ?
Eh bien, en fait, c'est la même chose pour tout le monde. C'est qu'un propriétaire, qu'est-ce qu'il veut en général ? Un propriétaire privé, eh bien, il veut être assuré que son loyer soit payé à temps, que son logement soit bien traité. Et en fait, le fait d'avoir pas de moyens, pas de revenus, peu de revenus ou tout ce que tu viens de dire, mais en fait peut faire peur au propriétaire parce qu'il se dit mais voilà, comment ce jeune qui n'a pas de revenus ou une situation avec des flexi-jobs, jobs d'étudiant, va pouvoir assurer ce loyer. Alors on pourrait dire aussi peut-être que voilà, le propriétaire il a un crédit, donc c'est des choses qu'il fait attention et donc tous ces aspects, et c'est normal quand on est jeune, quand on commence la vie, en fait, ben, on n'a pas un CDI, on n'a pas 15 ans d'expérience. Et donc, d'être jeune, ben, ça fragilise et c'est moins facile d'accéder à un logement.
Donc les propriétaires, ils ont surtout peur du retard sur le loyer et tout ça.
Mais ça peut être un des facteurs, en fait, que les propriétaires aient peur. En tout cas, après, il n'y a pas un type de propriétaire, mais effectivement, je crois que pour un propriétaire, le problème d'avoir un profil d'un jeune candidat, quelqu'un qui a 18 ans, qui est étudiant, qui cherche un logement, et puis d'avoir un couple qui a 35 ans, qui travaille tous les deux, le propriétaire va voir, avec sa perspective, plus de sécurité dans ce couple qui a de revenus par rapport au jeune. Et donc, effectivement, ça va mettre le jeune en difficulté avec une position moins favorable, en tout cas, dans sa candidature.
Ok. Je rejoins totalement Jean à ce niveau-là. Effectivement, je pense que pour un propriétaire, ce qui compte, c'est la garantie. C'est savoir qu'un loyer va tomber tous les mois pour pouvoir payer son crédit.
Ok. Question suivante ?
Oui.
Ça va.
Il n'y a pas de souci, Yacine. N'hésite pas à lancer les questions. Tu n'as pas besoin de mon aval. C'est gentil.
Ça va. Les jeunes connaissent-ils suffisamment leurs droits et les dispositifs d'aide existants en matière de logement ?
Alors, selon nous, ils ne connaissent justement pas assez leurs droits. Ils ne sont pas assez informés sur leurs droits ni sur leurs devoirs non plus en tant que locataires. C'est un sujet qui enfin, en fait, à tout niveau, les jeunes ne sont pas assez informés. Et c'est ça, du coup, nous, le rôle d'InfoJeune, c'est d'être là pour informer les jeunes sur toutes les questions qui les concernent. Et donc là, le problème, c'est que beaucoup de jeunes se font avoir parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits et du coup, ils se retrouvent avec des refus par rapport à leur logement. Ils se retrouvent avec des difficultés financières parce qu'ils ne savent pas les aides qui existent et ils ne connaissent pas leurs devoirs non plus en tant que locataires. Et donc, et parfois, certains proprios peuvent se retourner un peu contre eux et se retrouvent piégés.
C'est tout à fait juste. Je pense qu'il y a vraiment un besoin d'information, de sensibilisation, je ne vais pas dire dès le plus jeune âge, mais très tôt dans sa vie d'adolescent, de connaître en fait c'est quoi la réalité, que le logement c'est quand même la base d'une stabilité dans la vie, et de connaître en fait ses droits, ses devoirs, comment ça fonctionne, et aussi les recours qu'on peut avoir en tant que locataire ou même en tant que propriétaire peut-être plus tard dans sa vie, pour en tout cas que le droit, la loi en fait soit équitable pour tous. Et donc, il existe effectivement plusieurs associations qui peuvent répondre à ces questions-là, dont InfoJeune. Mais il y a également aussi des associations qui sont spécialistes dans le logement, qui sont les APL, donc les associations de promotion au logement, qui ont des permanences avec des personnes qui sont qualifiées ou en tout cas accès à des personnes, des juristes. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir tous ces acteurs. Et je pense qu'aussi les AMO peuvent en tout cas aider ou rediriger ce public dit jeune à avoir des informations concrètes et précises sur ses droits et devoirs.
Et n'oublions pas non plus le SPE Logement, qui est quand même le service de base qui normalement a toute la législation sur le logement. Et c'est parfois plus difficile d'appeler en tant que jeune un service comme celui-là, mais il est là pour ça aussi.
Moi, je peux rajouter un petit tips qui a aussi, et je pense que c'est en libre accès en tout cas sur cette partie-là, il y a une association qui s'appelle Droit Quotidien, qui sont des juristes spécialisés, qui sont aussi une APL. Et en fait, ils ont des fiches questions-réponses sur le logement. Elles sont en accès gratuit sur Internet. Et il y a plein de questions, plein de réponses. C'est super intéressant. Vraiment, ça vaut la peine d'aller voir de temps en temps.
Mais du coup, je trouve ça génial parce que je ne le savais pas. Et je me dis, du coup, l'information, il doit aussi être dit dès le plus jeune âge, mais aussi entre les partenaires et tout ça. Parce que je pense que, comme pour la personne en recherche de logement, mais souvent, on va lui dire à gauche, c'est ça que tu dois faire. Et puis à droite, on dit tout à fait le contraire. Je pense que c'est intéressant. On devrait peut-être plus montrer un visuel, peut-être, sur ce type d'association qui peuvent aider. Parce qu'on n'en fait pas non plus la pub, je pense. Voilà. Comme on dit, là, c'est InfoJeune, mais là, ça parle InfoJeune pour les jeunes. Mais quand on parle de la problématique logement, souvent, on redirige vers les CPS. Les CPS redirigent vers des capteurs logement. Peut-être que les capteurs logement n'ont pas les... Et là, on se retrouve alors un peu dans une forme de violence institutionnelle qui peut être très dure pour la famille qui est déjà, en fait, dans une complexité de recherche logement. Mais du coup, je garde tes adresses, Jean. Voilà.
Mais je crois effectivement que c'est intéressant qu'entre tous les partenaires, je veux dire jeunesse, qui travaillent dans le Ma grande famille du social, voilà, public, privé, de bien se connaître entre services pour pouvoir justement bien pouvoir rediriger, je veux dire, la personne qui cherche une information, quelle qu'elle soit. Et c'est important vraiment le réseau entre nous, de nous connaître et de pouvoir être au service de l'autre, en fait.
Ok.
Attends, Yacine, ça t'embête pas, j'ai juste une petite question, parce que là, on parlait beaucoup des droits et des devoirs des jeunes dans le logement. Est-ce que vous auriez quelques exemples très concrets ?
Un exemple qui nous est revenu il n'y a pas longtemps, c'est concernant la garantie locative. Donc, on a des jeunes qui se retrouvent à donner en main propre de l'argent à un propriétaire pour la garantie locative et qui, du coup, ne la récupèrent pas parce qu'ils ne sont pas informés sur le fait qu'une garantie locative, ça ne se donne pas comme ça de main en main, parce qu'un propriétaire un peu malhonnête, effectivement, garde cette garantie même s'il n'y a pas raison d'être. Donc voilà, ça c'est déjà une première information qui doit être donnée aux jeunes, c'est comment est-ce qu'on fait ces démarches-là, comment est-ce, enfin, il faut lire un contrat de bail avant de le signer, voir toutes les clauses, toutes les conditions, et s'assurer que tout ce qu'il y a dans le contrat de bail est légal, parce que parfois il y a de l'abus au niveau des propriétaires aussi.
Oui, moi ce que je peux rajouter, ce qui est vraiment intéressant, on ne le sait pas souvent, mais c'est qu'un bail de résidence principale, on dit qu'il est impératif, c'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quoi dedans, si ça ne respecte pas ce que le code du logement dit, il n'a aucune valeur juridique. Et donc, des fois, on met, oui, ben, moi, j'aimerais bien que, par exemple, il n'y ait pas de bruit entre 20h et 8h du matin. Ben non, c'est illégal. La loi dit on doit faire voilà, moins de bruit entre 22h et 6h du matin. Donc, on ne peut pas écrire ce qu'on veut dans un bail, que ce soit le propriétaire ou le locataire. Il y a la loi, elle est assez précise. Il y a des modèles de baux qui sont fournis gratuitement par la région wallonne. C'est ceux-là que je conseille toujours d'utiliser parce qu'ils sont, voilà, ils reprennent tout ce qui est les impératifs dedans. Et après, s'il y a un doute, effectivement, il y a tous ces services qu'on a déjà cités qui peuvent aider. Mais également, s'il y a un conflit, à un moment, d'avoir une conciliation auprès de la justice de paix, voire demander au juge de paix d'aller plus loin dans des démarches. Mais en tout cas, maintenant, il existe un système de conciliation, de demander à avoir un médiateur qui va venir démêler et dire est-ce que c'est vrai, pas vrai. Et déjà, ça, c'est un point intéressant parce que ça fait vite peur. Et c'est vrai que des fois, c'est des situations qui peuvent être compliquées. Mais en fait, la justice de paix, c'est une justice de proximité. Elle est là aussi pour démêler... justement, des fois, des petits imbroglios ou des méconnaissances.
Et est-ce que tu sais si ce médiateur a un coût financier pour les personnes qui en font appel ou bien si c'est un service ?
Alors, je ne suis pas sûr à 100%. Je pense que c'est soit gratuit, le médiateur, soit vraiment des frais administratifs peu élevés. Mais je n'ai pas une connaissance certaine du montant, s'il y en a un, là, tout de suite.
Je vois dans le public derrière toi qu'on essaye de me mimer que c'est gratuit.
Donc voilà. Il me semblait bien, mais voilà.
Comme ça, tout le monde le sait.
Ok.
Mais moi, j'avais. Mais du coup, tu parlais par rapport. Mais j'ai souvent. Enfin, une question toute bête. Quand je travaillais dans l'insertion sociale et je faisais souvent des recherches logement. Et en fait, on a souvent été confrontés aux animaux. Mm-hmm. Est-ce que dans un contrat de bail, les animaux peuvent être pris ? Hein ? Là, on a un désaccord. Je vais honneur aux dames. On va laisser la parole à Jamily.
Alors nous, en tout cas, dans nos dossiers juridiques, il est clairement écrit que un propriétaire ne peut pas interdire la présence d'animaux. Maintenant, j'imagine qu'il y a des petites subtilités aussi par rapport aux entretiens des bâtiments, etc.
Oui. C'est une question qui est vraiment hyper compliquée. En fait, je pense que vraiment ce qui est légalement, c'est que le locataire doit, je pense, formuler une demande au propriétaire. Mais que le propriétaire, en gros, ne peut refuser que pour des raisons raisonnables et raisonnées. C'est-à-dire, vous avez 5 chiens et vous louez un studio. Là, pour le bien-être de l'animal par rapport à l'espace, je dis 5, j'exagère, mais ça peut être 2. Là, on peut estimer que voilà, le propriétaire, normalement, peut refuser parce que ce n'est pas bon pour le logement, ce n'est pas bon pour les animaux. Même chose pour certains matériaux, des matériaux dits nobles, un parquet en chêne 18e. Voilà, ça peut être des raisons pour lesquelles le propriétaire refuse. Et je sais que c'est une question qui est très touchy, comme on dit, depuis pas mal de temps. Mais après, voilà, s'il y a des dégâts liés à la présence d'animaux, le locataire devra subir les frais de remise en état. Et en gros, quand il y a vraiment une discussion, ben c'est encore une fois au médiateur ou au juge de paix de trancher.
Et quel rôle vont jouer les garants, les cautions, les dossiers administratifs, tout ça, dans la discrimination à l'entrée d'un logement ?
Il n'y a rien à faire, le fait d'annoncer directement qu'on a un garant. Enfin, moi, en tout cas, je comprends la question comme ça. C'est d'annoncer directement qu'on a un garant. C'est un peu discriminant parce que ça prouve qu'on a des difficultés financières et ça peut, du coup, encourager le préjugé du propriétaire.
Mais est-ce qu'on est obligé de dire ce genre de choses, qu'on a un garant ou quoi ?
Non, en fait, on n'est pas obligé. Si on en a un, on peut le dire, mais on n'est pas obligé de le dire. Et le propriétaire ne peut pas exiger qu'un candidat locataire, quel que soit son âge, ait un garant. Un propriétaire qui exigerait en disant toutes les candidatures que je reçois, déjà celles qui n'ont pas de garant, je les élimine et après je regarde le type de garant, mais ça s'appelle de la discrimination, clairement. Mais après, rien n'est interdit d'avoir un garant et de proposer à un propriétaire d'avoir un garant. C'est un peu la complexité de la question.
Et c'est surtout que moi, je vois ça aussi un effet inverse. Tu parlais de garantie tantôt. Si j'arrive en disant j'ai un garant, c'est une garantie pour ce propriétaire.
Bien sûr.
Mais je pense que ça vienne du propriétaire, c'est là où c'est malaisant. Que si ça venait de la personne en elle-même, voilà, ça prouve sa bonne foi aussi.
C'est ça, en tant que locataire, arriver et dire... Voilà, j'ai tel contrat de travail, j'ai la garantie. Et mais si jamais je devais perdre mon contrat, j'ai une personne garante. Effectivement, ça peut jouer dans le dossier de manière favorable, comme ça peut être défavorable, parce qu'effectivement, il y aurait cette notion de discrimination financière, etc.
C'est compliqué. Et là, je parle au-delà du public jeune. Moi, j'ai déjà entendu des personnes qui disent, qui cherchent à louer, qui ont un bon travail. Et même pour eux, des fois, c'est difficile de trouver un logement. Et qui disent au propriétaire, écoutez, moi, cette maison, elle m'intéresse, je vous mets 6 mois d'avance de loyer pour vous prouver ma bonne foi. Et le propriétaire, des fois, il va se dire, oui, là, j'ai au moins 6 mois, je suis sûr. Et donc, les gens, en fait, la crise du logement, elle est tellement importante et elle est tellement difficile qu'en fait, les personnes, des fois, qui sont en difficulté de rechercher et qui ne sont pas tous dans une précarité, ils vont, en tout cas, se dire, moi, je joue mon va-tout, comme on dit. J'y vais, j'ai besoin de ce logement, et si j'ai les moyens financiers de proposer des avantages aux propriétaires, je vais me vendre aux propriétaires. Et là, on est quand même... Je comprends que les gens le font, ils ont raison de le faire quelque part, mais on est dans un côté aussi pervers de cette concurrence entre locataires pour un appartement, pour une maison. Ok.
Comment est-ce que le manque de logements abordables ou de logements sociaux, ça impacte le parcours vers l'autonomie chez les jeunes ?
Ça contribue à la précarité des jeunes, du coup. Le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, c'est plus difficile pour des jeunes de trouver un logement qui rentre dans leurs finances. Ou alors, ils vont justement prendre un logement un peu plus cher, mais ça va entraîner une précarité ailleurs. Donc, c'est un cercle vicieux, d'une certaine manière.
Alors, il faut bien, je pense, faire une distinction entre logement public et logement privé avec des prix abordables. Donc, pour le logement privé, il n'y a pas d'imposition, en Wallonie, de respecter une grille indicative des loyers. Donc, il y en a une qui existe, qui est vraiment intéressante, mais il n'y a pas une imposition dans des cas rares de primes. Et donc, là, c'est à la bonne volonté d'un propriétaire privé d'avoir un prix abordable ou pas. Et encore une fois, qu'est-ce qu'un prix abordable ? Ça, c'est encore une autre question. Et après, les logements publics, là, pour les jeunes, c'est encore des fois plus dur d'accéder à ces logements parce qu'on sait que, par exemple, en Brabant-Wallon, il faut un nombre de points. Donc, ça marche pas à redéfinir peut-être tout le système des logements publics, mais il faut des points de priorité. Et c'est quand on arrive à un nombre de points qu'on rentre, après X années, comme prioritaire pour le prochain logement qui va se libérer. Et on sait que ça prend des années. Donc, un jeune qui a 16, 18, 22 ans, qui cherche, il a besoin d'un logement dans les mois qui viennent et pas dans 4 ou 5 ans. Et donc là, c'est une question beaucoup plus large de l'accès au logement public.
Surtout quand celui-ci est aux études ou quelque chose ainsi, parce que c'est une pression qui se rajoute en plus. Et parfois, on va dire, ça répond à un besoin vital, le logement. Et du coup, il se dit, quitte à choisir, je préfère directement aller travailler, tant pis pour mes études. Et donc, c'est un frein aussi à l'avenir, justement, et c'est très, c'est là où on sent quand même un peu cette inquiétude, justement, par rapport aux jeunes, de se dire, ben voilà, s'il y avait des facilités, entre guillemets, parce que ben, on a des jeunes qui ont ben, voilà, des parcours de vie où parfois ils se retrouvent isolés, et du coup, ben, s'ils pouvaient avoir cette facilité, mais comme tu dis, cette accessibilité compliquée, ben, parce que déjà, il y a un système de points, et en plus, je pense que c'est un système de points qui dépend sur le ménage et la situation familiale, voilà, c'est très compliqué. Et tu parlais des propriétaires privés, alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est une question que je me pose. Je sais qu'à un moment, l'État ou la région pouvait donner un petit pécule pour justement équilibrer. Est-ce que c'est vrai ou pas? Du genre, le loyer était à 700, la personne donnait 600 et 100... Non.
Non, il existe différents types de primes. Là, aujourd'hui, il y en a. Je ne sais pas quelles seront ces primes d'ici quelques semaines. Je crois que c'est pas mal de choses qui sont en train de se décider... là, au moment où on parle, il existe des primes, par exemple, si on est inscrit sur une liste d'attente d'une société de logement public et qu'on a un bail dans un bail privé avec un propriétaire privé, après plus de 18 mois d'attente, par exemple, on peut avoir une prime de compensation qui est une 100 ou 125 euros par mois qui pourrait aider dans l'attente d'avoir un logement public. Ça, il y a des primes comme ça, il y a d'autres types de primes. Mais il n'y a pas une compensation directe si on a un bail dans le privé automatiquement par rapport à une catégorie de prix, pas à ma connaissance, mais en tout cas.
Merci.
Et est-ce que vous aurez des conseils à donner justement à des jeunes qui cherchent un logement du coup? Parce que là...
En fait, les conseils dépendent un peu de l'urgence du logement. Parce que idéalement, pour qu'un jeune puisse... construire correctement justement cette recherche, etc., c'est prendre le temps, c'est préparer un projet. Comme tout projet, il faut le préparer, il faut y réfléchir, calculer les finances, regarder un peu quelle serait la région idéale par rapport au loyer, parce qu'il n'y a rien à faire, en fonction des provinces, les loyers ont des prix différents. C'est voir un petit peu effectivement combien ils peuvent mettre de côté. Est-ce qu'ils savent encore mettre de côté s'ils payent ce loyer? C'est demander des conseils, c'est prendre le temps. Mais s'il y a une urgence, alors à ce moment-là, c'est plus compliqué justement de prendre ce temps et de construire et réfléchir vraiment bien à son avenir.
Mmh. Oui, tout à fait. Je pense que c'est jamais évident et jamais conseillé, mais des fois, on ne choisit pas de chercher un logement dans l'urgence, parce que là, on va prendre toutes les solutions... qu'on trouve ou on a accepté, même si elles ne nous conviennent pas et ça n'aide pas à la stabilité. Après, effectivement, ça dépend aussi le jeune. Ce qui est important, il y a le budget, mais savoir c'est quoi ses ressources aussi, que ce soit financière, qui est un premier pas, mais aussi l'environnement familial, s'il y en a un ou pas, social. Et moi, je pense que vraiment, j'avais entendu, c'est pas de moi, mais quelqu'un qui disait, mais en fait, la base de l'autonomie, c'est savoir demander de l'aide. Et j'ai trouvé ça une phrase très intéressante, parce que c'est tout à fait vrai. C'est que des fois, quand on est jeune, ou moi je l'étais, bah, je ne savais pas c'était quoi, rechercher un logement, et on essaye. Et alors, de trouver des associations qui peuvent nous diriger, nous aider, nous donner des conseils, nous aider à préparer des dossiers de candidature, bah, je pense vraiment que ça peut être un atout pour la recherche de logement, mais il n'y a pas de solution miracle. Et c'est aussi de réfléchir, par exemple, quand on est jeune, souvent ça commence... par la colocation, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie? Est-ce que c'est une situation dans laquelle on a envie de vivre? Ça peut être très chouette, pour d'autres, pas. Et ça, c'est des aspects aussi qui peuvent être réfléchis et définis dans cette recherche.
En fait, c'est s'informer et se poser les bonnes questions, surtout pour commencer.
Très bien résumé. C'est mieux que moi. Il parle trop longtemps.
Mais okay. Moi, j'aurais une question à poser à Yacine.
Oui.
Justement, toi, en tant que jeune,
oui.
Comment on pourrait t'informer?
Comment on pourrait m'informer?
Je te prends de court, hein, je le sais, donc rassure-toi,
oui. Oui.
Il n'y a pas de souci.
Oui, eh ben...
Tu veux que je laisse le temps d'y réfléchir?
Oui.
Il n'y a pas de souci.
Je veux bien, je peux poser la prochaine
question. Oui, tu peux poser la prochaine question. Je t'avoue que je t'avais pris de court, Yacine, il n'y a pas de souci.
Oui, c'est vrai. Quelles alternatives ou solutions temporaires comme des hébergements solidaires, des cohabitations, des colocations, des résidences étudiantes sont accessibles aux jeunes et avec quelles limites?
Des possibilités, il y en a beaucoup pour les jeunes. Déjà, par exemple, un code étudiant. Mais là, la limite, c'est que dans très peu de codes, c'est très rare qu'on puisse se domicilier dedans. La règle, normalement même, c'est qu'on ne peut pas se domicilier. Mais il y a certaines exceptions. Il y a la cohabitation. Mais la cohabitation, ça veut dire que si on a un revenu, une aide financière, l'aide financière va être calculée en fonction du revenu du cohabitant aussi. Donc, ça veut dire qu'on va y perdre financièrement. Il y a les hébergements solidaires, donc par exemple logements sociaux, etc. Mais il y a un manque de place, et comme disait justement Jean tantôt, c'est calculé sur une base de points, et donc ça peut durer des années. Donc des solutions, il y en a, mais il y a les limites qui vont avec, effectivement. Et malheureusement, en fonction de la situation du jeune, ces limites peuvent vraiment, vraiment être un frein et empêcher de trouver un logement.
Voilà, moi je relisais la question, c'est quelle alternative ou solution temporaire. Donc c'est-à-dire qu'on envisage déjà que ces solutions alternatives ou temporaires sont la norme. Et donc moi ça me pose question en relisant la question, en lisant en fait, j'avais pas lu comme ça cette question. Mais oui, mais même les solutions temporaires ou alternatives, il n'y en a pas des milliers non plus. Donc encore une fois, ce n'est pas évident. Effectivement, soit il y a les cotes étudiants, alors il y a la question de la domiciliation, comme tu disais. Alors c'est aussi quelque chose à se poser selon la situation du jeune. Est-ce qu'un jeune est domicilié par exemple chez ses parents ou chez un tiers et c'est OK parce qu'il fait ses études, ou est-ce qu'il veut travailler ou qu'il a besoin de cette domiciliation? Et donc déjà, ça va réduire ou élargir le panel de logements potentiellement disponible. Alors, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais je pense qu'aussi, quand on fait des études, des fois, il y a des accès à des cotes de l'université, à des prix plus abordables ou pour des personnes qui ont des bourses, tout ça. Mais encore une fois, je crois que je vais me répéter beaucoup, c'est vraiment d'aller chercher l'information ou demander à quelqu'un où trouver l'information et d'être conseillé par rapport à chaque situation, parce que je pense que chaque situation est différente et qu'on ne peut pas donner toujours des questions hyper généralistes alors que la vie de l'un ou de l'autre est différente. Donc voilà ce que j'ai envie de dire sur cette question.
En fait, comme pour tout, l'histoire du logement, c'est du cas par cas. C'est en fonction de la situation du jeune, il va peut-être ou non y avoir des aides financières, il va peut-être ou non y avoir un garant, il va peut-être ou non avoir des limites, par exemple, dans la domiciliation. Donc, l'idéal, en fait, comme tu disais, c'est de s'informer et de poser les questions par rapport à sa situation en allant voir les bons interlocuteurs.
Oui, il ne faut pas avoir peur de parler de sa situation. Je veux dire, que ce soit à des organismes publics de type CPS, à des ASBL qui travaillent dans le social, dans le secteur de la jeunesse. Voilà, c'est des personnes qui sont formées pour, qui sont là, ils peuvent tout entendre. Je veux dire, juste le but, il n'y a pas de honte à avoir ça. Vraiment, c'est aller chercher l'aide pour le mieux s'en sortir possible et avoir un accès à l'autonomie dont le jeune ou dont on a besoin. Donc, aller vers ces services, je pense que vraiment, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner.
Ok. Faut y aller ?
Oui, okay, ça.
Du coup, on revient à ta question.
Du coup, comment on pourrait t'informer ? Toi, en tant que jeune, quel serait le moyen pour t'informer ?
Je sais pas, je me dis ça dépend. Parce que déjà, est-ce que c'est au préalable ou dans la situation ? Est-ce que c'est... comment dire ? Parce que là, je dis ça, moi, je suis pas encore...
Oui, mais imaginons, allez, on va dire t'as 15 ans, d'ici 3 ans, tu vas avoir ta majorité, bam, t'as envie d'avoir de l'indépendance. Et comme le disait Jean tantôt, et moi aussi, je pense qu'on est tous passés par là, quand on est arrivé justement à ce stade d'avoir un logement, on a dû apprendre échec par échec, quoi. Enfin, voilà, moi par exemple, je ne savais pas un truc, c'est qu'en tant que locataire, je devais faire l'entretien de ma chaudière. Moi, je pensais que c'était au frais du... Mais c'est tout bête. Et en fait... voilà. Et si on ne fait pas ça, on peut avoir des restrictions. Enfin, voilà. Donc, c'est plus à ce niveau, qu'est-ce qui pour toi, ma question, je vais la reformuler, qu'est-ce qui pour toi serait utile en tant que jeune pour que tu puisses avoir ces informations ? Tu vois ?
Ouais.
Tu vois, ici, on est en train de faire un podcast et tout ça. C'est voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme moyen. Là, tu es face à des professionnels. Ça peut aussi nous aider à peut-être imaginer des outils et ce genre de choses.
Comment est-ce qu'on pourrait te toucher, en fait ?
Voilà. Déjà, je pense, justement, vu qu'on en a quelqu'un ici, je pense que j'irai déjà à un fort jeune, puisque c'est un peu le service qui... C'est le but de ce service-là. Et je sais pas, moi, en fait, je pense qu'il serait utile dans une situation de... Allez, on cherche un logement, il y a un peu des trucs qu'on sait pas, et on doit un peu apprendre, c'est... Déjà, avec ces informations-là, essayer. Pour moi, je pense qu'il faudrait déjà tenter et voir ce que ça donne. Même si, bon, on ne peut pas faire ça toute sa vie. Je sais qu'au bout d'un moment, il faut bien avoir un chez-soi. Mais, allez, je veux dire, sans échec, il n'y a pas de réussite. Si, allez, je veux dire... cherche mes mots, c'est horrible.
C'est pas grave, mais je pense que le message est compris. C'est,
ouais.
C'est comme on dit, c'est voilà, comme tu dis, ben, un échec, on laisse pas la fatalité prendre le dessus et se dire bon, tant pis, ça n'arrivera plus, on continue et on essaye de trouver d'autres alternatives. Si j'ai bien compris ce que tu voulais dire.
Oui, il faut essayer, quoi.
Et tu penses que, par exemple, s'informer... qu'on aille beaucoup plus, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, une émission TV qui parle justement de ça. Parce que moi, la seule qui me vient en tête, c'est On n'est pas des pigeons, tu vois. Donc, ouais. Voilà, mais est-ce que peut-être utiliser aussi des médias que les jeunes utilisent.
Oui, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que les jeunes regardent cette émission?
Ça va, j'ai pas encore parlé de la radio ou de la TV cathodique, merci. Mais est-ce que, par exemple, utiliser tout ce qui est... Facebook, Instagram et tout ça. Et on voit de plus en plus que les institutions et les services le font, parce que justement, c'est un média. Mais voilà, comment on peut cibler? Parce que moi, je peux faire un post, par exemple, Instagram et parler d'une chose, mais ça, que tu ne te sens pas concerné, par exemple.
Oui, ça arrive. Mais dans ce cas, je pense que ça ne devrait pas être un post, mais une sorte de... Allez, ce serait comme faire un compte avec... plein de posts qui expliquent plein de points différents pour qu'au final, quand on s'informe là-dessus, bah, on soit déjà un peu au courant, quoi, par rapport à comment ça se passe.
Ouais, du coup, ouais.
Est-ce qu'il y aurait un intérêt, ou est-ce que ça existe, je ne sais pas, mais peut-être un fort jeune, d'avoir, je veux dire peut-être en sixième secondaire ou... je veux dire, en fin des humanités, ou voilà, d'avoir des sciences d'information dans les écoles qui permettent justement de donner des outils de base. Je sais pas, je connais pas les limites de chaque association, donc désolé si je lance un pavé dans la mare. Mais voilà, est-ce que ça, tu penses, toi, que ce serait intéressant d'avoir une heure ou l'autre dans une année scolaire qui voilà, vous avez de l'info en fait et des ressources et qui aller si un jour vous êtes dans la situation de devoir chercher un logement.
Ben, à partir de là, j'imagine deux cas de figure. Donc, c'est un peu... soit c'est réparti, soit ces séances-là sont réparties sur toute la scolarité, soit c'est vraiment genre 5-6e. Mm-hmm. Je pense quand même que vers 5-6e, ce serait plus... ce serait plus retenu. Enfin, pas plus retenu, mais plus...
pertinent.
Plus pertinent, voilà. Parce que, en fait... Je sais pas, quand on arrive en première secondaire, je sais pas, on a 12 ans normalement.
Oui, oui.
Et donc, quand on commence à nous parler de logement alors que ça nous attend dans 6 ans, quoi.
Non. Mais tu as raison.
Ouais. Je pense que c'est plus. Je pense que c'est mieux de faire ça vers la fin des secondaires, quoi.
Et du coup, on en rigolait tantôt, on a eu ce regard avec Jamie. En fait, voilà, je vais te laisser un peu en parler. En plus, c'est toi qui fais ça. Mais comme ça, tu vas savoir.
Ah donc, sans vouloir faire notre pub, Info Jeune Vraiment Wallon, sur la page Instagram, il y a toutes les semaines une capsule vidéo qui s'appelle La Minute à Jaja. Jaja, c'est moi. Et donc, chaque semaine, il y a une vidéo sur une thématique précise qui sort. Et donc, c'est une vidéo informative d'une minute, une minute trente. Il y a déjà eu donc, notamment des vidéos sur le logement, sur le contrat de bail, sur comment trouver un logement, quelles sont les démarches, etc. Comme il y a sur le permis de conduire, sur l'orientation scolaire, etc. Enfin, toutes les thématiques qu'on aborde, chaque semaine, il y a une vidéo qui ressort. Donc ça pourrait être une solution. Et aussi, on organise des séances d'information dans les écoles et dans notre centre sur des thématiques différentes. Le logement n'était pas encore une de nos idées, mais donc ça pourrait tout à fait être créé.
C'est vrai, oui. C'est sur Instagram.
C'est sur Instagram, TikTok, okay. Facebook. On est partout.
Ça va.
Vu que tu as eu l'idée, tu peux demander des droits d'auteur, hein, y a pas de souci.
Du coup, est-ce qu'il reste des questions ou est-ce que je peux passer à la suite ?
Oui, tu peux passer à la suite.
Ok, ça va. Donc, en quoi les jeunes en situation de vulnérabilité sont particulièrement touchés ?
Comme je le disais tout à l'heure, c'est un cercle vicieux. Ouais. Ils sont déjà en vulnérabilité, je vais y arriver. Ils ont du mal à trouver un logement qui soit dans leur prix. Puis du coup, se retrouvent avec un logement parfois un peu plus cher. Du coup, se retrouvent dans une autre précarité, donc sont encore plus vulnérables. Et au final, ça ne s'arrête jamais.
Il n'y a pas vraiment de bon choix dans ce contexte. Il y a une précarité quelque part ou autre part, mais elle sera quand même toujours là, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Après, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir, mais c'est vrai que c'est, enfin, pour avoir quand même une note positive, et pas se dire, ben voilà, dès qu'on est dans la vulnérabilité, ben voilà, que c'est foutu, quoi. Pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui s'en sortent, mais effectivement, c'est plus difficile, ça prend du temps, et puis bon, on le sait, on part pas tous avec les mêmes chances dans la vie, comme on dit, mais voilà, je pense qu'il y a. C'est pas toujours évident, effectivement, selon la situation dans laquelle on est, et que ça prend des fois du temps, et ça a des impacts sur son avenir, comme on disait tout à l'heure, je ne sais plus, mais peut-être que voilà, c'est à un moment on n'a pas l'occasion de faire des études parce qu'on doit travailler pour avoir un logement et se nourrir. Après, ben voilà, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gens qui reprennent des études à 30, 40 ans, et voilà, qui font ça parce qu'ils sont en sortie. D'une autre façon, je crois qu'il n'y a peut-être pas toujours qu'une façon de faire, mais effectivement, dès qu'on n'a pas les finances ou des parents qui sont là avec de quoi subvenir à nos besoins pendant nos études, ben, ça nous met dans une vulnérabilité qui peut être importante.
Ok. Ça. Donc, comment est-ce que les communes, les associations, les services jeunesse, comment est-ce qu'ils peuvent mieux soutenir les jeunes dans leur démarche pour le logement ?
Il y a déjà des choses qui sont mises en place. Par exemple, certains CPAS ont des logements qui mettent à disposition des personnes qu'ils aident. Il y a aussi certaines AMO qui travaillent en collaboration avec d'autres services pour pouvoir proposer des logements aux jeunes avec plus de difficultés. Et aussi, certains services peuvent informer. Même, c'est la base de mon travail, donc je le vois encore. Mais effectivement, s'informer pour pouvoir savoir qu'est-ce qui existe, c'est un des rôles des services jeunesse et aussi l'accompagnement d'autres services comme les AMO, par exemple.
Okay. Oui. Moi, je pense que de plus en plus, on se rencontre. Il y a des rencontres inter-services, que ce soit au niveau des services jeunesse, des services généraux. Lié, je veux dire, à la précarité, et de plus en plus, pour tout ce public, on se rend compte que la question du logement, est déjà depuis de nombreuses années, elle est vraiment importante, et ça devient vraiment la base de tout, parce que, comme on dit, souvent, sans logement, c'est difficile de s'épanouir ou d'imaginer des projets. Être sans logement, c'est la précarité, et c'est vraiment compliqué. Donc, de plus en plus, les services essayent de s'entraider, et je pense vraiment que c'est le côté positif, de créer des projets ensemble. Voilà, je ne vais pas parler, mais par exemple avec Tempo, avec d'autres services de Nivelles et aux alentours, on essaie de créer des projets pilotes, par exemple de colocation pour jeunes. Là, on teste depuis presque un an, une colocation de 4 jeunes qui était pour mise en autonomie. Donc, c'est des petites pierres, mais je veux dire, voilà, c'est l'intérêt d'être plusieurs, de prendre toutes ces associations, de se mettre ensemble, de mettre des fois des moyens ensemble et de permettre de développer des projets. Et voilà, on n'est pas les seuls, il y a plusieurs d'autres, alors il en faudrait beaucoup plus. Mais je pense que vraiment, cette problématique liée entre autres à la jeunesse permet aujourd'hui de petit à petit d'aller vers le développement de projets qui sont plutôt innovants, plutôt des fois pas courants. Quoi. Donc, mais encore une fois, je plaide pour que tous ces services, quel que soit leur public, puissent se mettre ensemble pour justement créer des solutions et permettre à ces jeunes qui sont dans une certaine difficulté d'avoir un chez-soi pendant le temps nécessaire. Mais encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas des logements pour tout le monde, malheureusement.
D'accord. C'est intéressant cette idée de collaboration entre plusieurs services, je trouve. Ça peut vraiment aider, mais En fait, ils s'entraident eux et ils aident les jeunes qui ont besoin d'un logement, quoi. Donc je trouve c'est intéressant. Je pense qu'ils devraient un peu tous collaborer. Moi, je vais pas changer le monde non plus, hein, mais je pense qu'ils devraient tous un peu collaborer. C'est parce que ça peut être très intéressant et les rendre d'autant plus efficaces dans leur aide.
Tout à fait. Mais de plus en plus, je peux t'assurer que c'est le cas. Que voilà, on est tous autour de la table. Je crois que de plus en plus. Des fois, on dit qu'il y a la réunionnite aiguë dans le secteur du social. Mais aussi, il y a des réunions qui sont vraiment intéressantes, elles sont toutes intéressantes, on va dire, mais qui permettent justement de mutualiser nos forces, justement pour avoir des projets en commun. Et je pense qu'on doit continuer, comme tu dis, dans ce sens-là, et avancer et permettre comme ça l'accessibilité plus facile et abordable, en tout cas sur la thématique du logement, à des logements pour ces jeunes.
Et puis chaque service a son domaine d'expertise aussi, et de pouvoir mettre en avant l'expertise de chacun en collaborant, c'est super intéressant, c'est enrichissant même.
Oui, tout à fait, c'est essentiel.
Et c'est ça qui apporte vraiment une nuance, parce que, enfin voilà, moi par exemple j'ai des questions de logement ou de choses ainsi, mais il y a des ressources, et c'est ça qu'il faut se rendre bien compte, c'est qu'on est, je pense que c'est un peu la dynamique du social à l'heure actuelle, on est ressources l'un et l'autre. Voilà. Moi, je ne me prétends pas, par exemple, juriste en droit du logement, mais je connais des institutions qui peuvent m'aiguiller et aiguiller le jeune. Par exemple, je prends le cas d'un fort jeune, ils ne vont pas prendre le code pénal et te lire les articles. Ils vont essayer d'un peu te le vulgariser pour que tu le comprennes. Donc, il y a quand même toute une démarche des travailleurs pour que, justement, le public en face puisse comprendre ce qui se passe. Et je pense que c'est vraiment la force aussi du réseau qui est mis en place au travers des solutions. Et c'est vrai, comme tu parles de la réunionnité aiguë, toutes les réunions sont intéressantes, mais parfois, ce sont des réunions qui, il n'y a que 7 jours dans une semaine, et on pourrait débattre pendant des heures comme on fait là maintenant, et parfois, il faut aussi être dans l'action.
Oui.
Et voilà. Et c'est pour ça que là aussi, c'est important de savoir quel service prend le lead, de se dire, voilà, j'ai pris toutes les infos, maintenant j'y vais. Tu vois ?
Oui, je vois. Donc, est-ce qu'il y a des politiques publiques qui vous pensez devraient être renforcées ou même repensées pour répondre à la crise du logement chez les jeunes ?
Alors, je vais reformuler la question politique publique. Ce n'est pas une question de politique, c'est vraiment se dire, à l'heure actuelle, par rapport à tout ce qui est droit au niveau du logement et tout ça, qu'est-ce qui pourrait être réfléchi ?
Je crois que ça peut faire l'objet d'un podcast
en entier.
C'est vrai que cette question à elle seule...
Mais c'est vrai que moi, j'avais noté 4 idées dans un monde idéal. Déjà, dans un premier temps, augmenter l'offre de logements au loyer raisonnable, qu'ils soient privés ou publics. Simplifier les démarches pour les jeunes, donc par exemple une garantie adaptée à eux. Ils se lancent dans la vie, ils doivent déjà sortir 2 ou 3 mois de loyer d'un coup. C'est parfois compliqué. Encourager les baux plus flexibles, c'est-à-dire les colocations, les logements partagés, parce que c'est vrai que beaucoup de propriétaires ne savent déjà pas comment faire un bail de colocation. Ils sont basés sur le bail traditionnel et donc pouvoir encourager ça, ça pourrait être intéressant. Et enfin, proposer des aides financières pour les jeunes selon les revenus et la situation. Donc il y a déjà des choses qui existent. Dans la situation actuelle au niveau politique, on se questionne beaucoup. Mais donc justement, rajouter ces aides en fonction des situations, ça pourrait aussi être intéressant. Donner plus d'argent à des services qui accompagnent les jeunes pour qu'ils puissent justement les aider à trouver ce logement. Enfin, voilà, c'est vraiment dans un monde idéal.
Mmh. Oui, on pourrait trouver plein de pistes. Ces pistes sont vraiment intéressantes. Après, c'est toujours une question de moyens financiers, de qu'est-ce que le politique, nos dirigeants en tout cas... ont comme priorité, c'est pas toujours, je veux pas leur jeter la pierre non plus, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que si on veut vraiment une accessibilité du logement aux jeunes, mais il faut mettre donner envie par exemple à des propriétaires privés d'accueillir des jeunes, que ce soit en colocation ou pas en colocation, que ce soit une information plus claire, plus flexible sur le bail de colocation, qui est pas très compliqué, c'est juste qu'il est pas très connu, ou de donner des incitants financiers à un propriétaire qui accueille un jeune avec un bail entre 16 et 23 ans, avec certaines règles, lui donner un incitant sur sa réduction, son prêt compte immobilier par exemple. Donc je crois qu'on peut imaginer pas mal de choses, et aussi de donner les moyens à des associations qui vont permettre de créer des projets de colocation ou pas, ou d'habitat studio, même alternatif. Mais voilà, si les associations publiques ou privées, encore une fois, n'ont pas les moyens d'investir là-dedans, mais tout est une question de vision à long terme. On pense souvent court terme, mais je pense qu'on doit vraiment, à un moment, une fois, aller vers une vision très long terme et d'avoir peut-être des finances qui vont monter crescendo, mais avec une communication claire et pas sur 2-3 ans.
Essayer de voir venir, quoi.
Voilà, je pense qu'on ne va pas régler la crise du logement en un an ou deux. Si on veut la régler un jour, déjà, ça prendra plusieurs gouvernements. Donc, il faudrait vraiment avoir une vision à long terme, que ce soit au niveau de la rénovation énergétique, de l'investissement dans les logements publics et dans différentes aides aux propriétaires.
Et cette vision à long terme, est-ce que le réseau wallon pour le droit à l'habitat, il a... Oula, j'en vois une grimace.
Je pense, oui. C'est une structure qui est experte, dans ce droit au logement. Et donc, ils militent, ils font des recommandations au monde politique. Alors, bien sûr, je crois que tout à fait dans l'idéal, c'est d'avoir une vision long terme. Oui, je pense que c'est vraiment une ressource intéressante et je pense tout à fait que c'est de leur vision de rénover, de renouveler, de financer et de donner accès à tout le monde à un logement digne et abordable.
Et on arrive déjà à la dernière question, c'est que c'est passé vite. Comment on peut donner davantage la parole aux jeunes eux-mêmes dans la construction de solutions adaptées à leur réalité?
C'est une très très bonne question et j'ai mis beaucoup de temps à y réfléchir parce que je pense que ici pour l'instant on dit beaucoup qu'on écoute les jeunes, qu'on écoute ce qu'ils ont envie de dire, etc. Mais effectivement on ne leur permet pas d'agir avec nous. Après, encore une fois, dans un monde idéal, ça serait top que les jeunes participent plus au conseil communal. Donc, il y a le conseil communal des jeunes qui existe dans beaucoup de communes maintenant. Mais ils sont vraiment scindés du conseil communal. Donc, ça serait déjà une première façon d'agir, c'est de les écouter. Vous vivez Nivelles, vous êtes à l'école à Nivelles. Venez, on discute, voici ce qui va être mis en place. Quel est votre avis par rapport à ça? Ça serait déjà une première chose. Co-créer des projets avec les jeunes aussi, en fonction de leurs besoins, de leurs envies, de leurs demandes. Consulter les jeunes dans la planification, c'est-à-dire... je ne sais même plus pourquoi j'ai noté ça. Voilà, on va passer ça. Utiliser les outils numériques des jeunes. Donc, par exemple, on veut votre avis, on veut que vous vous exprimiez. Parfois, c'est difficile de réunir des jeunes parce qu'entre l'école, les activités extrascolaires, etc., puis parfois la flemme, tout simplement, de se déplacer. Maintenant, le numérique existe beaucoup. Pourquoi pas, justement, créer des plateformes où les jeunes pourraient s'exprimer, où on pourrait sonder les jeunes, justement, au niveau un peu plus politique. Valoriser aussi leurs engagements. Donc, par exemple, je pense au Conseil communal des jeunes de Nivelles. Et on a quand même un fameux groupe de jeunes qui est très investi. C'est très chouette. Ils ont de chouettes projets. Mais ils ont quoi au bout? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien qui leur permet de prouver qu'ils ont participé à ça. Et donc, par exemple, avoir une attestation qui pourrait être un plus pour plus tard, ça pourrait être avantageux aussi. Et ça encouragerait les jeunes à venir de plus en plus à ce genre d'activité. Et alors, laisser une place aux jeunes à la table des décisions, c'est comme pour le conseil communal des jeunes. C'est plus au niveau politique, évidemment. Ça serait l'idéal d'avoir un jeune qui serait un peu le porte-parole d'autres jeunes.
Du coup, ça ne leur laisse pas la possibilité de vraies actions, disons, de vrais agissements?
S'ils participent, s'ils co-créent des projets, s'ils réfléchissent aux décisions, ils ont quand même des actions. Alors après, oui, avoir encore plus loin, je vois ce que tu veux dire, c'est d'aller plus loin un peu dans l'action. Effectivement, ça, c'est à co-créer.
Moi, je ne travaille pas avec les jeunes directement, donc je ne vais pas... Je ne saurais même pas quoi vous dire, parce que ce n'est pas mon métier. Peut-être la seule chose, c'est au niveau du logement, c'est de permettre d'une façon ou d'une autre à certains jeunes de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs, puisque c'était un petit peu un message aussi que Yacine, tu disais tout à l'heure. Je dis, des fois en logement, on apprend parce qu'on ne sait pas qu'on doit faire l'entretien de la chaudière et on ne sait pas qu'on doit faire ceci, cela. Et des fois, bien plus tard, on apprend aussi des choses sur le logement parce qu'on ne sait pas qu'on doit... Voilà. Et de se dire aussi, en tant que propriétaire, bah, d'avoir des fois une certaine flexibilité, une certaine pédagogie et pas juste être dans la réprimande ou dans... Mais bon, voilà, c'est juste une idée comme ça, mais voilà, de permettre aussi... permettre d'avoir des petites erreurs et de comprendre et d'avancer comme ça pour aller plus loin. Mais voilà, à part ça, j'ai pas trop d'avis sur cette question.
Non, mais c'est pertinent. Et je te rejoins aussi. Voilà, moi, je m'imagine réellement, quand j'étais jeune et que j'ai eu mon premier logement, c'était l'inconnu, quoi. Et on va dire l'inconnu, en général, ça fait pas trop peur. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un se dire, tiens, je vais sauter dans l'inconnu, je trouve ça génial. Donc, c'est vraiment se dire, voilà, l'inconnu, ça... Ça fait peur. Et comme tu dis, si les propriétaires, parce que là, on parle des jeunes, on parle beaucoup ici du rôle de locataire, on pourrait aussi faire tout un podcast sur le rôle du propriétaire. Et c'est vrai que ce sont des questions hyper intéressantes, ou voilà, même qu'un propriétaire vienne à se documenter et à dire, voilà comment pense ce jeune de 18 ans. Il vient de finir imaginons, sa qualif, il va commencer à être commis de cuisine. Voilà, donc... il est un peu stressé, en plus il est un peu livré à lui-même. Mais ça, logiquement, c'est un raisonnement qu'on devrait avoir tous, un peu d'empathie, voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais voilà, c'est toujours très complexe. Et c'est vrai que souvent, on va plus aller dans une surenchère. On parlait des droits et devoirs, mais je pense qu'on va souvent aussi dans une surenchère. Et voilà, j'ai un exemple qui me vient tout de suite pour prendre ta question, Isabelle. Mais j'avais un jeune qui, lui, m'avait dit... mon propriétaire n'a pas réparé ma fenêtre, et j'arrête de payer le loyer. Et c'est toujours dans ce rapport de force, on essaye, alors que le but c'est d'arriver et de dire, faut pas que tu te mettes en porte-à-faux non plus. Et on sent toujours un peu cette complexité du droit et du devoir, parce que c'est très vaste pour eux, parce qu'ils ne connaissent pas. Et si on pouvait être vraiment plus clair, justement, vers les chemins vers lesquels ils embûchent. Je pense qu'il y a eu assez de jeunes qui ont fait des erreurs et des échecs, comme tu parlais tantôt, Yacine, qu'on puisse créer limite, voilà ce qui va se passer si tu fais ça, quoi.
Faut essayer chacun de se mettre à la place de l'autre, finalement.
C'est ça. Je pense qu'il a bien résumé, et fini la phrase. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot que vous voulez dire par rapport à cette question. Est-ce que des personnes, ça va faire bizarre, dans le public ont des questions à poser à nos intervenants? Non, personne. Ah. Voilà. Je vais laisser la parole à Laureline. Voilà.
Tu peux poser. Bonjour à tous. Je me demandais si le propriétaire peut mettre dans le contrat ou dans le bail le fait qu'il peut venir quand il veut, donc notamment dans un code étudiant. J'ai eu ce cas récemment et donc je me posais la question.
Absolument pas. Ça, c'est la réponse. Non, il y a des règles qui sont établies pour un bail de résidence classique. Le propriétaire, normalement, a le droit à une visite annuelle. Il doit prévenir, je pense, 8 jours avant sa visite. Il n'y a pas de venir quand on veut. Il peut venir si tu l'appelles parce qu'il y a un problème, bien sûr, ça c'est autre chose. Mais lui, venir pour vérifier ou venir de sa propre volonté, c'est une fois par an. C'est ce que le code du logement prévoit.
Tout le monde a le droit à sa vie privée et donc c'est hyper important que les propriétaires respectent ça aussi. Et même dans le cadre où c'est toi qui appelles ton propriétaire pour qu'il vienne voir parce qu'il y a un problème, il doit fixer un rendez-vous ou dire quand il sera là, même s'il a la clé, il doit dire quand est-ce qu'il vient, si tu n'es pas à ton domicile.
Moi, c'est une question que j'ai de temps en temps, c'est le propriétaire a la clé de chez moi, est-ce que c'est légal? Alors c'est quelque chose qui est courant, en tout cas en Belgique, ce n'est pas partout comme ça dans les pays. Mais après, rien n'empêche au locataire de changer son baril-dé si ça lui pose un problème, tant qu'il remet le baril-dé original à la sortie de son logement. Après, je veux dire... par des propriétaires, la grande majorité sont corrects, il n'y a pas de souci, mais effectivement, dans le cas où on n'est pas à l'aise avec ça, pour l'une ou l'autre raison, c'est une possibilité.
D'accord, merci.
Avec plaisir.
J'avais une question, ça peut être compliqué, mais dans un cadre un peu plus extrême, c'est quoi les conditions, genre, dans quel cadre un propriétaire a le droit d'expulser son locataire?
Alors déjà, c'est jamais le propriétaire qui expulse le locataire. C'est toujours une décision de justice. Donc, c'est-à-dire que si à un moment, il y a une décision du juge de paix même. Donc, c'est-à-dire que si un propriétaire estime que le locataire ne répond pas, ou ne respecte pas ce qui est marqué dans le contrat de bail, alors basiquement, ça va être de payer son loyer en temps et en heure, d'entretenir correctement le loyer, de respecter les dates du bail. Je veux dire, si on a un bail d'un an, ben ouais, il y a des moyens et des temps pour renouveler, donner un renom. Et donc, le propriétaire ne va jamais lui-même expulser, mais va demander à la justice de paix, alors ça peut être d'abord au conciliateur, médiateur ou au juge de paix, de prononcer une décision par rapport à la situation. Et donc, le juge de paix, il aura l'écho des deux parties, et puis il va prendre une décision. Et après encore, c'est un huissier qui va être nommé, qui va venir lui-même notifier l'expulsion, mais ce n'est pas le propriétaire qui expulse. Même si je comprends ta question, mais voilà, je voulais juste apporter un peu de nuance.
Oui, c'est en fait, oui, parce que je dis propriétaire par, un peu par défaut, mais je me dis, oui, en vrai, la question c'était plus dans quel cadre c'est possible d'expulser le locataire.
Si on ne respecte pas les conditions qui sont notées dans le bail de façon basique, et souvent ça pourrait être pour des impayés ou alors quelqu'un qui n'entretient pas du tout son logement et ça a un impact sur le logement directement ou sur les voisins, ça peut être. Après, il peut y avoir d'autres critères, ou si on arrive au bout d'un bail et puis qu'on ne quitte pas le logement à la date prévue. Et là, à un moment, voilà, le propriétaire, en fait, il se doit même, il a même l'obligation de saisir la justice de paix pour dire, voilà, il y a un souci. Alors, il y a toutes des règles, ça va être très technique, mais je crois que les juges de paix, ils vont entendre chaque partie, voir la solution. Est-ce qu'il y a moyen de trouver une solution qui évite vraiment, qui évite l'expulsion, qui évite de trouver une solution au problème. Mais encore une fois, ça dépend quel est le type de problème. Mais ça peut être aussi un locataire qui trouve que le propriétaire ne respecte pas ce qui est marqué dans le bail, par exemple. Okay. Donc ça peut être dans les deux sens. Et donc le juge de paix, il est là pour ça. C'est son job de prendre une décision sur une situation conflictuelle ou en tout cas compliquée.
Ok.
Moi, c'est pas une question, je reviens en arrière par rapport au statut de cohabitant, puisque hier nous avions, dans le cadre de notre semaine, organisé une table ronde avec nos politiques, dont tous les partis étaient réunis sur le statut de cohabitant. Et ce qui est sorti de là, évidemment, c'est que la majorité des partis présents voulaient l'éradication de ce statut, sauf un parti ennemi, on va dire. Et en fait, il y a une possibilité que ce statut soit dehors, mais c'est qu'il faut une force, un rapport de force et d'amener les graines auprès du public et de monter au créneau tous ensemble pour que ce statut s'en aille. Apparemment, ça a déjà été mis au Parlement dernièrement, et donc il faut continuer tous à faire en sorte que ce statut, qui est complètement aberrant en Belgique, donc... Allons-y, déjà pour ça.
Merci pour ce petit appel à mobilisation bien glissé. Moi, j'avais une petite question hyper pratico-pratique. Imaginons que je suis un peu plus jeune et que je loue un bien. Et en fait, je me rends compte au cours de la location, on arrive en hiver, et je me rends compte qu'en fait, que je suis dans une passoire énergétique énorme et qu'en fait, finalement, mon bien pourrait peut-être passer pour insalubre. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Parce qu'à mon avis, ça, en Belgique, il doit y en avoir beaucoup.
Oui. Alors, normalement, c'est une obligation. Déjà, on va repartir avant. C'est qu'il doit avoir dans le contrat de bail un PEB. Alors, on peut toujours discuter du PEB, est-ce qu'on est un peu au-dessus, un peu en dessous. Mais bon, ça donne déjà une base. Après, la première chose, c'est toujours de contacter son propriétaire, en fait. C'est, en tant que locataire, c'est dire, monsieur le propriétaire, voilà, je me rends compte, je viens d'arriver depuis 4 mois dans ce logement, c'était agréable, et là, j'ai beau chauffer, et je ne dépasse pas les 18 degrés, il y a de l'humidité, venez voir parce que c'est un problème. Et donc ça, c'est la première démarche pratico-pratique à faire. Et après, c'est à voir la réaction du propriétaire. Soit il dit effectivement, il y a un souci et je vais le régler. Voilà. Alors des fois, ça ne se règle pas du jour au lendemain non plus. Ça, il faut en être conscient. Ou alors le propriétaire dit ben, non, pas du tout, c'est comme ça et rien. Et de plus en plus, le logement se dégrade. Il y a une précarité, enfin pas une précarité, une insalubrité qui s'installe, de l'humidité. Malgré le fait que, par exemple, tu gères bien, tu aères bien, parce que c'est souvent des questions qui sont là. Si vraiment, au bout du bout, à un moment, ça ne va pas, mais c'est encore une fois de demander une médiation, voire certaines communes ont des services logement qui peuvent venir inspecter le logement. Et à ce moment-là, il se pourrait que le bourgmestre, parce que je crois que c'est la compétence du bourgmestre, d'informer le propriétaire que le logement est insalubre, en fait, et qu'il doit faire ses travaux. Mais c'est des démarches toujours qui sont compliquées parce que c'est se mettre en. Des fois, on a peur de se mettre en porte-à-faux par rapport à son propriétaire, se dire ben, j'ai un bail d'un an et moi je suis bien là. Et en fait, si je lui dis quelque chose, si je l'embête, ben, peut-être qu'il ne va pas vouloir renouveler ce bail. Et donc, c'est souvent c'est beaucoup de questions. C'est des questions qui m'arrivent souvent, qu'on me pose beaucoup, pardon. Et effectivement, ce n'est pas évident. Donc, je pense toujours qu'il faut contacter son propriétaire, lui faire constater. Pas hésiter à prendre des photos, mais si à un moment c'est vraiment insalubre, ben voilà, on peut pas vivre dans des conditions comme ça, donc il faut demander à des structures compétentes d'intervenir.
Maintenant, j'ai entendu aussi que ce qui était très compliqué avec les logements insalubres, c'est qu'une fois que le logement est déclaré insalubre, du coup on peut plus vivre dedans.
Oui.
Mais alors, avec la crise du logement actuelle, les listes d'attente qui sont interminablement longues, cette histoire de points, machin. En fait, du jour au lendemain, on peut se retrouver
sans
toit. Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Après, un juge peut considérer que si c'est pour des bonnes raisons, si c'est vraiment à cause du propriétaire qu'il a été prévenu qu'il n'a rien fait, je crois qu'un juge de paix peut donner aussi des indemnités, décider de condamner le propriétaire à des indemnités au locataire. Alors, je ne dis pas que c'est hyper courant, mais je ne suis pas juge non plus, mais je pense que c'est une possibilité. Mais effectivement, c'est des situations qui arrivent, où on se retrouve, moi on m'appelle en disant, voilà, on a une famille, le bourgmestre a marqué que le logement était inhabitable, parce qu'il y a de l'humidité partout, et ils doivent quitter. Et on dit, mais est-ce que c'est de leur faute? Pas vraiment, ou on ne sait pas, mais en gros, ils doivent partir, et on est le 31 décembre. Quoi. Et donc, c'est des situations dramatiques et catastrophiques. Oui.
C'est vrai que ça, en plein hiver... Je m'imagine pas dans une situation comme ça, j'arrive pas.
T'as encore le temps, rassure-toi. Oui. Aussi.
Ça fait peur.
Et du coup, voilà, on va arriver vers la fin de ce podcast.
Oui.
Et au début, je voulais tous vous remercier en fait pour votre participation, c'est très enrichissant. Du coup, je vais laisser la parole à Isabelle qui a été quand même investigatrice, on a du mal hein, aujourd'hui ouais. Pour les paroles, investigatrice du projet, et laisser le mot de la fin à celle-ci.
Merci. Du coup, je vais un peu me répéter avec ce que Jonas a dit. Un grand merci à tous d'être présents autour de cette table. Je pense qu'il y a eu beaucoup de questions, il y a eu aussi beaucoup d'enrichissement, je pense, déjà, en tout cas pour moi, j'espère pour vous aussi. Et pour les personnes qui écouteront ce podcast qui dure pour l'instant 1h03. Donc tu disais que c'est passé vite, mais mine de rien, ça fait quand même un petit temps qu'on...
Moi, je trouve que c'est passé vite.
C'est bon signe.
C'est très bon signe. Donc peut-être que ça sera aussi facile à écouter pour les autres. Pas vraiment de mots de la fin, là, tout de suite. Ah oui, non, si, je peux avoir un jingle de fin. Mais est-ce que quelqu'un vous... Enfin, est-ce que l'un de... Oula, est-ce que... Ça va pas du tout aujourd'hui. Hein.
Merci pour l'invitation.
Isabelle. Voilà, super, merci. Ah, là-bas, là derrière, on a un mot de la fin. Je peux se rapprocher d'un micro ?
Voilà, je voulais simplement dire que je pense quand même que pour conclure, il faudrait donner un conseil aux jeunes, parce que les jeunes ont besoin d'être conseillés avant tout. C'est de ne jamais lâcher l'affaire, de ne jamais laisser aller les choses, de se défendre quand c'est justifié. Et d'utiliser tous les moyens possibles. Et il y en a quand même, il faut le dire, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. Il y a des moyens pour se faire aider, se faire soutenir. Il faut les utiliser. Il faut les chercher, les trouver et les utiliser. Voilà.
C'est vrai.
Un bon conseil pour la fin.
Si on laisse tomber, on a tout perdu finalement.
Exactement. Mais du coup, on ne laisse pas tomber.
Voilà, on ne laisse pas tomber. Ce sera notre mot de la fin, si personne n'a autre chose à dire.